L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Après avoir évoqué la semaine dernière la mémoire de Kofi Annan, nous allons aujourd'hui prendre de la hauteur et découvrir les nouveaux horizons du transport aérien. L'actualité nous offre un motif tout trouvé pour évoquer ce sujet, le 85e anniversaire de la compagnie Air France. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. À titre personnel, j'ai toujours été fasciné par les avions et les aéroports. Point de rencontre cosmopolite, l'aéroport est le lieu de tous les possibles. L'endroit d'où l'on part pour de nouveaux horizons, un nouveau projet, ou même une nouvelle vie. Dans le hall d'un aéroport, de belles rencontres peuvent se faire, mais aussi, au pied de la passerelle d'un avion, des histoires d'amour peuvent arriver au bout de leur chemin. L'histoire de l'aéronautique est marquée par les noms de ses pionniers, Mermoz, Saint-Exupéry ou Charles Lindbergh pour ne citer que les plus célèbres. Certains d'entre eux, à l'instar d'Icare, ont payé de leur vie ce rêve fou qui était de voler. Le transport aérien a toujours véhiculé une foule de mythes. Nombreux sont les enfants qui rêvent ou ont rêvé de devenir pilote de ligne, hôtesse ou steward. Une vie dans les airs à voyager sans cesse vers des contrées exotiques et en descendant dans les plus beaux hôtels du monde. Si vous ajoutez à cela le prestige de l'uniforme et des rémunérations attractives, de vrais métiers de rêve. La réalité est toutefois différente et les conditions d'exercice de ces métiers ont bien changé depuis les années 60-70, qui représentent l'âge d'or de l'aviation civile. Mais quelles sont donc les grandes tendances qui façonnent le paysage actuel du transport aérien ? Le premier phénomène concerne l'essor des compagnies du Golfe. Ces 15 dernières années, les compagnies des pays du Golfe, essentiellement le Qatar et les Émirats arabes unis, sont celles qui ont connu la plus forte croissance. Elles ont développé la stratégie de hub en faisant office de tête de pont entre l'Europe et l'Asie. La croissance débridée des compagnies du Golfe a fait les beaux jours des constructeurs tels que Airbus et Boeing pour leur programme de gros porteurs type A380. Les pays du Golfe font des ponts d'or à leurs compagnies nationales, qui ne payent ni charges sociales, ni taxes, ne participent pas au financement du contrôle aérien, et ne versent que très peu de redevances à leurs aéroports. En Europe, les modèles économiques sont radicalement différents. Les compagnies européennes se plaignent d'ailleurs fréquemment de ne pas pouvoir se battre à armes égales. Ces compagnies du Golfe font en réalité partie intégrante des stratégies de développement de leurs pays respectifs. Il s'agit d'une forme de développement et d'influence que l'on peut considérer comme relevant du soft power, terme dont j'aurai l'occasion de vous reparler ultérieurement. La présence de ces compagnies permet à ces pays d'asseoir leur stature sur la scène internationale et de travailler à la diversification de leurs économies. Étant situés à quelques heures de vol de la Chine et de l'Inde, et du reste du continent asiatique, les compagnies bénéficient à la fois de l'essor des volumes d'affaires avec les pays asiatiques et l'essor des classes moyennes. L'un des points forts de ces compagnies porte sur le service à bord. Elles sont régulièrement classées comme étant les meilleures au monde pour leur qualité de service, restauration, confort des sièges, présence d'un bar pour les business et les premières classes. L'autre phénomène qui touche le paysage de l'aviation civile concerne le décollage des compagnies low cost. Allez, viens, on va passer un week-end à Budapest. Il y a un Ryanair ou un EasyJet pas cher, ça nous coûte quasiment rien. Et puis sur place, on réservera un Airbnb sympa à proximité d'un quartier qui bouge bien. Avouez que c'est tentant de profiter d'un city break à moindre coût. Parmi les compagnies low cost les plus connues, Ryanair est la plus emblématique. Elle a été fondée en 1985. Elle est ainsi devenue la première compagnie aérienne à bas coût en Europe. Au départ, elle n'opérait qu'avec un avion à hélice, et dès la seconde année d'exploitation, Ryanair a transporté près de 82 000 passagers en proposant des billets à prix cassé. Le modèle de l'aviation à bas coût est né aux États-Unis avec la compagnie Southwest. Au début des années 1990, Ryanair, en proie à de graves problèmes de trésorerie, s'inspire des méthodes de cette compagnie. Réduire les coûts au maximum, proposer des prix bas, faire payer différents services tels que les boissons à bord ou le bagage en soute. D'abord cantonné au marché britannique, Ryanair n'arrive en France qu'en 1997 par l'ouverture de la ligne entre Dublin et Beauvais. Au début des années 2000, les compagnies low-cost fleurissent en Europe. À cette époque, la Commission européenne a décrété la fin du monopole des compagnies nationales sur les liaisons intérieures. Toutes les grandes compagnies européennes vont alors créer leurs filiales pour tenter de rattraper le retard pris sur les low-cost historiques. En France, EasyJet est devenu l'un des plus féroces concurrents de Ryanair en misant sur une stratégie radicalement différente. Positionnement sur des aéroports plus importants, type Roissy-Charles de Gaulle ou Orly, étant donné qu'Aéroports de Paris refuse Ryanair sur ses pistes, et prestations plus élaborées pour séduire une clientèle d'affaires. Ce modèle low cost ne plaît pas forcément à tout le monde et se trouve de plus en plus remis en cause, notamment avec Ryanair. Ryanair a déjà été condamné en France pour avoir embauché du personnel sur sa base de Marseille sous contrat de travail irlandais. Et ce, afin d'échapper au paiement des charges sociales françaises. Les rythmes imposés aux pilotes et au personnel navigant sont fréquemment remis en cause et la sécurité des vols de cette compagnie inquiète de plus en plus les autorités aéroportuaires. Un autre phénomène vient modifier le paysage de l'aviation civile, le low-cost long-courrier. Le low-cost long-courrier est-il un Eldorado ou est-il porteur de désillusions à venir? Depuis peu, il est possible d'acheter des billets d'avion à des prix défiant toute concurrence pour traverser l'Atlantique. L'une des premières compagnies à s'être lancée sur ce créneau est la compagnie norvégienne Norwegian qui a ouvert des routes en direction de l'Amérique du Nord. Norwegian a repris certaines recettes de Ryanair en se basant sur des aéroports secondaires pour peu qu'ils se trouvent situés à proximité d'une grande métropole, par exemple à proximité de New York, de Washington ou de Miami, afin de payer moins de redevances et en proposant un large éventail de destinations une bonne partie de l'année, voire toute l'année. La clientèle visée est celle qui est prête à accepter les conséquences de la localisation d'un aéroport éloigné de la destination finale et qui peut s'accommoder d'horaires de vol souvent peu commodes. Ce qui est vrai pour les compagnies low-cost pour de courtes distances en Europe ne s'avère pas être exact pour les longues routes, surtout pour des questions de rotation des appareils et de rentabilité des compagnies. D'ailleurs, la compagnie norvégienne rencontre actuellement des difficultés et pourrait même être rachetée par le groupe IAG, maison mère de British Airways. Il apparaît aujourd'hui que le modèle économique low-cost long-courrier n'est pas stabilisé et il est bien difficile d'affirmer aujourd'hui si cet équilibre se fera dans un proche avenir. En conclusion, la démocratisation du transport aérien a permis à un nombre toujours plus grand de personnes de prendre l'avion et de voyager, permettant ainsi de découvrir un nombre toujours plus grand de pays. En soi, cela peut paraître être une excellente nouvelle, mais de plus en plus de villes se plaignent des conséquences du tourisme de masse. Venise, Amsterdam, Lisbonne, Barcelone se plaignent régulièrement de l'invasion des touristes, des différentes nuisances qui peuvent en découler, de la flambée des prix de l'immobilier, notamment pour les locaux, la difficulté à ne plus pouvoir se loger dans leur ville de naissance ou de résidence, et une image de marque de la ville qui peut se trouver détériorée. Cela est particulièrement vrai pour Amsterdam et Barcelone, qui sont perçues aujourd'hui comme des capitales de la fête et de la fête à bas prix. Du point de vue environnemental, les avions restent toujours des sources de pollution. Même si les constructeurs travaillent pour réduire la consommation de kérosène, en réduisant le poids des appareils, notamment par le biais de l'usage des matériaux composites. Prendre l'avion est-il un geste anti-environnemental? Voilà une question qui pourrait mettre en colère nombre de voyageurs, mais cette question peut malgré tout se poser de façon légitime, notamment pour les trajets nationaux où il peut y avoir une concurrence avec le train. Les différents éléments que je viens d'évoquer permettent d'introduire un débat qui fera l'objet d'une prochaine chronique, le tourisme de masse versus le tourisme responsable. Ainsi s'achève ce deuxième épisode de l'Odyssée géographique. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.